Chaque année, la traversée de Paris à la nage réunit des dizaines de professionnels et d'amateurs pour le plus grand bonheur du public qui se presse le long des berges. Le sport se démocratise et il laisse émerger de nouveaux héros. À l'image des vedettes de la chanson et des stars de cinéma, les grands sportifs sont adulés par le public. Le boxeur Georges Carpentier, premier français à être sacré champion du monde mi-lourd, est l'une des personnalités les plus connues à l'époque. Il n'hésite pas d'ailleurs à faire le show devant la caméra qui le suit jusqu'aux États-Unis, où sa notoriété est immense. La presse s'intéresse à leurs exploits sportifs, mais aussi à leur vie privée. Quelques années plus tard, les journalistes vont s'inviter au mariage de Jules Ladoumègue, spécialiste de la course de fond, sacré 4 fois champion de France. Chez les femmes, la première grande vedette s'appelle Suzanne Lenglen, un nom bien français qui se transforme en Lenglaine quand la joueuse devient une championne internationale. Son parcours alimente les colonnes des journaux, autant pour son coup droit que pour ses jupes qu'elle est la première à raccourcir. Sa notoriété est telle qu'elle influence même la mode. Ses tenues créées par le couturier Jean Patou, mais aussi son bandeau, sont repris et copiés par les femmes de la rue. Alors que Paris mise sur celle qu'on surnomme la divine, Suzanne Lenglen sera la grande absente des JO de 1924. Une jaunisse l'oblige à déclarer forfait dès le deuxième tour des épreuves. Mais cette Olympiade va être l'occasion de découvrir une autre star. L'athlète qui va dominer les courses de fond est un Finlandais de 27 ans. Il s'appelle Paavo Nurmi. Ses performances presque surhumaines vont susciter à la fois la stupéfaction et l'admiration. Ce 10 juillet, il est à peine 16h quand il prend le départ du 1500 mètres. Rapidement, Nurmi devance les autres coureurs et termine l'épreuve en tête. Pour lui, c'est presque une formalité. Alors que ses concurrents se remettent difficilement de l'effort accompli, l'infatigable Finlandais ne va pas s'arrêter là. Moins de 2 heures après cette première victoire, il se lance dans le 5000 mètres. Et là encore, il l'emporte. 2 médailles d'or en l'espace de quelques heures seulement, du jamais vu. Pour la presse, c'est du pain béni. Mais Paavo Nurmi ne joue pas le jeu des journalistes. Présenté comme froid, distant et même manquant d'humanité, il évite les caméras et les photographes. Le journal Le Miroir des Sports le présente même comme le type parfait du misanthrope, fuyant ses coéquipiers et ne serrant jamais la main de ses rivaux après une course, comme c'est l'usage. Nurmi sera quand même célébré comme le premier athlète à décrocher 5 médailles d'or en une seule édition. L'un de ses titres, il va l'obtenir dans l'épreuve la plus controversée de la compétition, le cross-country. 38 athlètes prennent le départ. Ils ne savent pas encore que cette course de 10 km sur un terrain accidenté va se transformer en cauchemar. Cette compétition a été organisée en tout début d'après-midi, à l'heure la plus chaude de la journée. En plein soleil, le thermomètre frôle les 45 degrés et monte même, sur une partie du tracé, jusqu'à 60 degrés. Après quelques kilomètres seulement, certains sportifs sont pris de malaise. Ils sont contraints d'abandonner tout au long du parcours. Deux d'entre eux doivent même être évacués vers l'hôpital le plus proche. Sur les 38 participants au départ, 15 seulement terminent l'épreuve. La fin d'un chemin de croix. Sauf pour notre invincible Paavo Nurmi qui finit la course en tête. Les journalistes raconteront qu'il franchit la ligne d'arrivée, frais comme une rose. Il a même 1 minute 30 d'avance sur le deuxième, son compatriote Villeri Tola. Mais devant l'hécatombe, les organisateurs décident de retirer le cross-country du programme olympique. Ce ne sera pas le seul revers de la compétition. Le rugby à 15 va également connaître des déboires lors des Jeux de 1924. À l'époque, le tournoi se résume à 3 pays, la France, les États-Unis et la Roumanie. En finale, face aux Américains, les tricolores sont donnés largement favoris. Mais contre toute attente, ce sont les Américains qui dominent la partie. Quand deux joueurs français sont évacués après des plaquages tout à fait réglementaires, les spectateurs se déchaînent. Au coup de sifflet final, sur le score de 17 à 3, la foule redouble de fureur. Loin de l'esprit olympique, elle siffle la levée du drapeau américain. Certains vont même s'en prendre physiquement aux supporters. Le rugby à 15 ne sera plus au programme olympique. Et le ballon ovale ne fera son retour qu'à Rio en 2016, dans sa version à 7. Une autre discipline très populaire va, elle aussi, disparaître des Jeux. Sur les cours construits près du stade de Colombes, tout semble réuni pour que le spectacle soit au rendez-vous. Les joueurs français en compétition ne sont pas encore des stars, mais ils vont bientôt dominer le tennis mondial sous le nom des Mousquetaires. Jean Borotra, René Lacoste, Jacques Brugnon et Henri Cochet. C'est sur ces quatre noms que reposent les espoirs de médailles. Il n'y aura finalement pas de titre olympique français, mais à eux quatre, ils remportent tout de même 3 médailles. Chez les femmes, en l'absence de Suzanne Lenglen, c'est une autre Française qui va se distinguer sur les cours. Julie Vlasto parvient à décrocher la médaille d'argent face à la favorite, l'Américaine Hélène Wills. La qualité des échanges est bien présente, mais l'organisation des matchs est l'objet de vives critiques. Les joueurs se plaignent du comportement des spectateurs qui pénètrent sur les courts pour prendre des photos. À la même époque, le tennis se professionnalise. Les joueurs rémunérés pour la pratique de leur discipline ne peuvent plus participer aux JO où ne sont admis que les sportifs amateurs. Le tennis va donc être écarté des Jeux. Pendant 60 ans. Cette décision va priver les femmes d'une des rares disciplines qui leur sont accessibles. Car elles n'ont le droit de concourir que dans des sports jugés féminins, comme le tennis, la natation, l'escrime ou la voile. Hors de question pour elles de participer à une course d'athlétisme jugée trop violente. On cherche ainsi à protéger leur féminité et leur fécondité. Pendant la Première Guerre mondiale, les Françaises ont eu l'occasion de démontrer qu'elles n'étaient pas ces petites personnes fragiles auxquelles on aimerait les réduire. À la campagne, elles vont remplacer les hommes mobilisés en effectuant les moissons et les vendanges. On compte sur elles pour nourrir le front. Dans les usines aussi, elle joue un rôle de premier plan. Déjà présente dans certains secteurs comme le luxe et le textile, elle rejoignent les lignes de production d'armement. Surnommées les munitionnettes, ces ouvrières possèdent des bras solides pour tourner des obus plus de 10 heures par jour. Le reste des emplois traditionnellement réservés aux hommes est également occupé par des femmes. Conductrices de tramway ou de taxi, postières ou encore balayeuses. Les femmes ont joué un rôle primordial et à la fin de la guerre, elles comptent bien s'en servir pour conquérir de nouvelles libertés. Leur émancipation va passer par la libération du corps. Pour cela, elles vont pouvoir s'appuyer sur l'engagement d'un certain nombre de figures, comme la comédienne Musidora, qui bouleverse la représentation féminine au cinéma. Dans le film « Les vampires » de Louis Feuillade, elle interprète le rôle d'Irma Vep, la première femme fatale française sur grand écran. Bien avant Catwoman et Batman, elle se montre dans cette combinaison très moulée de soie noire, à l'époque où les femmes portent encore des jupons et des corsets. Sa silhouette féline embrase le cinéma. Le film, en 10 épisodes, on parlerait de série aujourd'hui, remplit les salles obscures et Musidora devient l'actrice la plus populaire et la plus emblématique du cinéma européen. Avec ses grands yeux noirs soulignés de kohl et son teint diaphane, elle est vénérée par les poilus pendant la Première Guerre et devient l'icône des surréalistes. Actrice, mais aussi réalisatrice, elle adapte deux romans de Colette, son amie, elle aussi figure libre et indépendante de ce début de siècle. Ces modèles vont inspirer les femmes après la guerre. Suivant l'exemple de Musidora, les Françaises abandonnent la rigidité des corsets pour des tenues droites, plus confortables. Une silhouette androgyne qui s'accompagne du raccourcissement des jupes et des robes. Les cheveux, eux aussi, sont plus courts, avec cette fameuse coupe à la garçonne. Une mode qui sera aussi une véritable aubaine pour tous les coiffeurs de France. La garçonne a d'abord été un phénomène littéraire. C'est le titre d'un ouvrage qui sort en 1922. Son auteur, Victor Marguerite, y raconte les aventures d'une jeune femme indépendante menant une vie sexuelle très libre, alternant les partenaires masculins et féminins. À l'époque, l'ouvrage est qualifié de pornographique et son auteur est radié de la Légion d'honneur. Le livre, que n'aurait sans doute pas boudé Musidora, sera un formidable succès de librairie. En apparence, plus rien n'arrête les femmes. Pour la première fois, une aviatrice, Adrienne Bolland, effectue la traversée de la cordillère des Andes. Quand d'autres s'essaient à la haute voltige, et même au saut en parachute. Avec la libération du corps, c'est tout l'univers du sport qui s'ouvre aux femmes. Femina Sport, le premier club uniquement féminin, a été créé dès 1912. Il organise chaque année de grands meetings où se produisent des sportifs de haut niveau. Les femmes parviennent même à faire céder un bastion traditionnellement masculin, le football. Dans les années 20, Femina Sport est comparable à ce que l'Olympique lyonnais est au football féminin aujourd'hui. Les joueuses vont gagner à 10 reprises le championnat de France. Au niveau international aussi, elles s'imposent avec à leur tête Madeleine Braquemont, la capitaine de la première équipe de France féminine. Cette attaquante hors pair, que le pays surnomme affectueusement Mado, incarne l'image de la sportive par excellence. Dans ce reportage qui pourrait s'intituler « La femme idéale », Elle paraît aussi à l'aise sur un terrain de football ou de rugby qu'avec une raquette de tennis ou un fleuret à la main. Sans oublier pour autant les activités bien féminines de l'époque. Pourtant, cette soif de liberté ne s'accompagne pas des grands changements de société réclamés par les femmes. Alors que les Allemandes, les Anglaises, les Hollandaises obtiennent le droit de vote, les Françaises se le voient refuser. Des lois extrêmement répressives sont votées, comme celle de 1920, interdisant l'information sur la contraception et l'avortement. Dans le domaine sportif aussi, le combat des femmes est loin d'être gagné. Malgré leurs performances, elles n'ont pas le droit de participer aux épreuves les plus emblématiques des Jeux Olympiques. Pour le rénovateur des Jeux, Pierre de Coubertin, leur place est ailleurs.
Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. On doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel.
Si la misogynie de Pierre de Coubertin est souvent pointée du doigt, ses déclarations sont le fruit à la fois de son milieu d'origine et de son époque. Mais les femmes ne vont pas se laisser faire. Celle qui prend la tête de la fronde, c'est Alice Milla. Issue d'un milieu modeste, cette sténodactylo, présidente de Femina Sport, pratique l'aviron à haut niveau et s'est illustrée en natation et en hockey sur gazon. Elle va tenir tête à Pierre de Coubertin. Puisque les hommes ne veulent pas des femmes au JO, Alice Milla organise en 1922 à Paris des Olympiades réservées uniquement aux femmes. Tout s'y déroule comme aux Jeux masculins, avec le défilé des athlètes et la proclamation officielle d'ouverture. Ce qui provoquera une grosse colère du CIO. Le président de la Fédération d'athlétisme parle même de putsch féminin. 77 sportives vont s'affronter dans 13 épreuves d'athlétisme. La plupart des journaux qui relaient la manifestation déplorent le spectacle auquel se livrent les femmes. La palme des propos les plus réactionnaires revenant au Figaro dans son compte-rendu du 400 mètres.
Cette épreuve terrible pour le corps féminin et qui le rend si peu aimable. Quelles sont ces furies toutes possédées par une sombre folie? Leurs yeux sont hagards, leurs bouches sont crispées et je préfère ne pas parler de leur poitrine. Dans un dernier effort, elles passent la ligne d'arrivée, palpitantes, épuisées. On ne peut imaginer de spectacle plus navrant de délabrement physique.
Malgré ces comptes rendus inimaginables aujourd'hui, les spectateurs sont là et le pari semble gagné. Tous les sports vont progressivement s'ouvrir aux femmes. Mais il faudra attendre les Jeux de Paris de 2024 pour atteindre la parité parfaite. En attendant, elles vont se faire remarquer dans les rares disciplines auxquelles elles ont accès. En 1924, ce sera le cas en natation, le sport qui rassemble le plus de concurrentes. Les épreuves se déroulent dans un stade nautique flambant neuf, le stade des Tourelles. Ce bassin a été installé Porte des Lilas, dans le nord-est de Paris. C'est l'un des équipements construits spécialement pour les JO. Mais comme pour le stade de Colombes, sa réalisation ne s'est pas faite sans polémique. Pendant des mois, les élus et les concepteurs du projet vont s'affronter sur le financement de cette piscine. Les travaux coûtent plus cher que prévu. En décembre 1923, 6 mois avant les Jeux, on se demande même si elle sera terminée à temps. le stade nautique sera finalement inauguré un mois seulement avant la cérémonie d'ouverture. Cette piscine est alors considérée comme la plus moderne d'Europe. Pour la première fois, un bassin est équipé de cordes pour délimiter les lignes d'eau. La nageuse qui va dominer le tournoi est une jeune américaine de 18 ans. Gertrude Ederle remporte à elle seule 3 médailles, une en or et 2 en bronze. Mais c'est un autre défi qui intéresse celle que l'on surnomme Trudy, la traversée de la Manche à la nage. Alors que personne à l'époque n'imagine une femme affronter une telle difficulté, Gertrude se jette à l'eau le 6 août 1926. Pour la protéger du froid et des piqûres de méduses, on l'a enduite de sein doux et d'huile d'olive. La Manche affiche un timide 16 degrés. À bord du bateau qui l'accompagne, des journalistes et des photographes ont pris place. Après 14 heures et 39 minutes de combat, elle remet le pied sur la terre ferme, en Angleterre. Non seulement elle est la première femme à accomplir cet exploit, mais elle bat le record de la traversée, détenu par un homme, de près d'une heure. Encensée pour son courage et son audace, elle fait un retour triomphal à New York, où 2 millions de personnes l'attendent. Au JO de 1924, une future immense star du grand écran va également s'illustrer.